Madame Ernestine Bocage, vous êtes essayiste, membre actif de l'association Rakaba. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez L'audace des matins, un essai socio-littéraire. Est-ce qu'il s'agit d'une étude et d'un travail d'analyse du roman guyanais très connu Atipa?
Oui, c'est bien ça. Donc le premier roman guyanais, Atipa, écrit en 1885, qui intéresse la communauté internationale, tous les créolistes, peut aussi intéresser les étudiants et un large public. Donc j'ai travaillé à partir de ce roman pour le rendre un peu plus accessible, disant que mon essai sera comme une aide, comme on dit chez nous en créole guyanais, une sorte de zété, pour permettre au lecteur de s'approprier plus facilement le premier roman créole guyanais Atipa.
L'objectif, c'est de préserver la mémoire collective et construire, en quelque sorte, la Guyane de demain à travers ce roman.
Ce roman est vraiment une mine d'or. Et on se rend compte que le personnage principal, Atipa, à travers tous ses récits, à travers toutes ses promenades, construit effectivement une mémoire qui au départ peut sembler être une mémoire privée, mais qui en réalité est une mémoire collective, une mémoire commune. Puisqu'il aborde tous les thèmes concernant le pays Guyane, l'éducation, la langue créole, l'économie, la politique, la valorisation du pays, la richesse du pays. Il présente chaque commune qui existait à l'époque. Donc c'est une référence effectivement pour tous les Guyanais, c'est une référence pour tous ceux qui s'intéressent au créole, et à juste titre, on peut considérer ce roman comme une œuvre collective, une œuvre qui permet la construction d'une mémoire collective.
Le roman Atipa d'Alfred Paripou en est à sa cinquième édition. Est-ce que cela traduit l'importance de ce livre? Peut-on parler de patrimoine immatériel de la Guyane?
On peut effectivement parler de patrimoine immatériel de la Guyane. Il faut savoir que le livre donc a bien été écrit à la fin du 19e siècle, et puis ensuite il a un peu disparu de la circulation. Il va revenir en 1980, donc soit près d'un siècle après, parce qu'il va être publié dans le cadre des collections de l'UNESCO, des œuvres représentatives de la série créole. Donc ce n'est pas une petite affaire. Il faut que le Guyanais se rende compte que quand on cite des œuvres représentatives, eh bien Atipa en fait partie.
Alors c'est quand même exceptionnel, hein. La première édition date de 1885 en créole guyanais, sans aucune traduction française, ce qui pour l'époque c'était véritable exploit.
Un véritable exploit. Rundoko. Alfred, alors, son surnom, c'est Alfred Paripou. On a fait des recherches. Je vais exposer ces recherches-là dans mon essai. Il a fait un travail extraordinaire. Et il s'adresse aux Guyanais. Et il parle de nous, Guyanais. Apuzot Runsomofe, sa roman. Apuzot Runsomofe, Atipa. Parce qu'il gagne des bagages, ils ont besoin de connaître, ils ont besoin de savoir. Donc il estimait que le créole était une langue autonome, que le créole n'avait pas besoin de traduction. C'est par la suite, dès 1980, dès la seconde édition, que Michel Loyer va proposer une traduction à la fin de l'ouvrage. Et puis ensuite, les autres traducteurs vont nous proposer des traductions en vis-à-vis, ce qui facilite effectivement la lecture et la compréhension. Donc ça veut dire qu'à l'époque déjà, dès la fin du 19e siècle, eh bien, cet auteur estimait que le créole pouvait être compris, pouvait être lu par ses compatriotes et pouvait servir effectivement de base à des échanges importants. Je pense qu'il a eu raison.
La plus récente édition date de 2016 avec une traduction française. On en parlait tout à l'heure du travail que vous avez fourni autour de ce roman, mais avant, signalons qu'il y a eu une étude qui a été réalisée en 1989, d'ailleurs vous en parliez tout à l'heure, sous la direction de Marguerite Fouquenet, portée sur différents domaines comme le cadre socio-historique et anthropologique, l'approche pragmatique et littéraire, et une réflexion sur la langue. En tout, ce sont 15 auteurs, allant de Serge Patient qui nous a quittés dernièrement, et Jean-Pierre Jardel, qui ont travaillé sur le roman Atipa.
Donc on voit bien la portée scientifique du roman, et on voit bien que tous les créolistes, qu'ils soient du Canada, d'Allemagne, des Antilles, se sont emparés de ce roman. Alors, 15 chercheurs, en dehors de Patient, de Serge Patient, ce sont des regards extérieurs. C'est important. Mais c'est tout aussi important d'avoir des regards de l'intérieur. Et moi, je propose une vision de l'intérieur. Avant moi, il y a eu aussi deux autres personnes, je vais les citer. Donc, c'est Madame Francine Château-Condé-Salazar et puis Mesdames Lydie Choukoutou et Monique Dorcy, qui ont fait aussi une petite étude. Donc, mon étude vient compléter quelque part les leurs, mais surtout j'apporte de nouveaux éléments, de nouvelles avancées que j'aurai plaisir à présenter tout à l'heure au niveau de mon essai L'audace des matins.
Ernestine Bocage, vous publiez L'audace des matins, cet essai socio-littéraire consacré au roman Atipa d'Alfred Paripou. Alors, vous, ce que vous avez amené, apporté en plus, alors d'abord, vous avez levé le mystère autour de l'identité de l'auteur. On va peut-être pas en dire trop, mais vous pouvez déjà nous en dire un petit mot.
Vraiment un petit mot, parce qu'il faut laisser le suspense hein, pour les lecteurs. Oui, ça me tenait à cœur, parce que on avait un nom qui avait été donné, on avait une paternité qui avait été révélée. Et malgré ça, il y avait tout de même des hésitations au niveau donc de l'auteur. Or, il est important que l'on sache exactement qui a écrit ce livre, même si à l'époque le pseudonyme était peut-être ou à la mode ou important, parce que l'auteur a eu ses raisons, certainement, pour publier sous un pseudonyme. Il est important d'essayer de retracer le cheminement de l'auteur et puis de dire qui il est réellement pour lui accorder toute la place. Pour qu'il ait aussi, cette reconnaissance officielle, et puis que nous, au niveau donc de la Guyane, qu'on sache qui c'est, et puis qu'on parle de lui ouvertement, de manière très claire, de manière très 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 sérieuse. En fait, voilà pourquoi il est important de parler de cet auteur. Et voilà pourquoi je vais effectivement, à la suite de mes recherches, tenter une biographie. Proposer une biographie de cet auteur, qui n'est autre que Athénodore Mitterrand.
Dans L'audace des matins, le suspense est omniprésent. C'est un roman, un ouvrage à rebondissement. Vous y parlez également, vous y croisez surtout différents éléments allant des recherches historiques. Et surtout, vous avez dévoilé une preuve cachée laissée par l'auteur. Alors, comment avez-vous procédé dans le cadre de vos différentes recherches? À quel endroit les avez-vous effectuées?
C'est vrai que c'est un gros travail, mais c'est un travail passionnant. À certains moments, je me transformais un peu en enquêtrice, hein, puisque j'ai dû aller plusieurs fois aux archives. Alors, aux archives de Guyane, mais aussi aux archives de Paris, aussi aux archives d'Aix-en-Provence, à la NOM, et dans les bibliothèques. Donc, en fait, c'est une sorte d'aller-retour, de croisement entre votre propre réflexion. Donc, le livre, je vais le lire plusieurs fois, vraiment plusieurs fois, je n'ose dire le nombre de fois. Et en même temps, je vais faire des recherches historiques, des recherches scientifiques. Je vais croiser mes propres données avec celles qui existent déjà au niveau de ceux qui ont fait d'autres recherches. Et à partir de là, parce la sociolittéraire que je suis, parce qu'en fait c'est une démarche littéraire, donc il y a des principes littéraires que je vais mettre en œuvre, des notions littéraires. Par exemple, pour la preuve cachée, je vais exploiter ce qu'on appelle la mise en abîme. Donc ça, je n'en dis pas plus parce que la preuve cachée, c'est vraiment quelque chose pour moi d'important. Hein, c'est comme des indices que l'auteur laisse. Donc les lecteurs vont découvrir toutes ces preuves cachées puis tout le cheminement dans l'essai. Mais tout ce que je tiens à dire, c'est que effectivement, c'est un travail minutieux. Un travail minutieux où il faut donc rechercher des éléments dans l'ouvrage lui-même, parce que ma matière première, c'est bien le roman Atipa. Et puis, ce travail scientifique, ce travail où il faut confronter les sources. Quand je lis quelque chose, par exemple, dans un journal, je vais le confronter, eh bien, aux documents officiels, aux documents qui existent, aux archives. Et c'est un travail qui prend du temps, mais moi, je suis satisfaite du résultat et j'espère que les lecteurs vont apprécier.
Dans l'audace des matins, paru chez Orphie Ibis Rouge, par vous, Madame Ernestine et Bocage, vous faites un focus sur les hommes et les femmes habitant la Guyane, en particulier Cayenne, en cette fin du 19e siècle. Bien évidemment, nous, ça nous intéresse. Il y avait combien d'habitants à Cayenne à cette époque? Quels étaient les quartiers déjà? Que peut-on en dire sur cette période?
Bon, c'est une période qui est vraiment très importante. Parce que si vous voulez, c'est la période où il y aura de grands bouleversements en Guyane. Et on pense hein, que l'auteur et ses amis ont été relativement inquiets de ce qui se passait. On rappelle rapidement hein, que c'est la période où le bagne va être installé en Guyane. Et on ne le dit pas suffisamment, mais les Guyanais n'ont pas bien réagi à cette nouvelle. L'installation donc du bagne, c'est la période aussi où il y a la découverte de l'or et beaucoup de Guyanais vont quitter avant qu'il y ait des migrants qui viennent d'ailleurs. Ce sont les Guyanais eux-mêmes qui vont quitter leurs habitations, leurs plantations pour pouvoir se rendre à l'intérieur du pays sans les placer. Donc ça crée une sorte de désorganisation. En plus, il y a au niveau politique des incertitudes. La Guyane change régulièrement de gouverneur. Alors je ne vais vraiment pas en dire plus, mais il faut savoir que c'est une période de grand bouleversement. Et les hommes et les femmes de ce temps-là sont très 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 actifs. Donc travailler sur le 19e siècle, c'est aussi connaître un pan de notre histoire. C'est connaître une famille, puisque je vais parler d'une famille précise, hein, la famille de l'auteur. Eh bien, ça vient, si vous voulez, combler, parce qu'on avait parfois l'impression que sur le 19e siècle, il y avait un petit vide, un petit manque, parce qu'on connaît très bien le 20e siècle, on connaît très bien le 17e avec le début de l'esclavage, avec la mise en place du système esclavagiste. Et cet auteur, il écrit au début de la Troisième République, on avait moins d'éléments sur la manière dont tous ces hommes et toutes ces femmes vont s'impliquer au niveau de la Troisième République. Et là, ça nous donne quand même une vision relativement précise et intéressante de cette fin de siècle.
Un essai qui facilite l'appropriation et la compréhension de cette œuvre majeure que constitue Atipa et qui va à contre-courant de l'idéologie majoritaire de l'époque, tournée vers l'assimilation totale à la France. On n'a pas attendu Zemmour, hein. Déjà on parlait d'assimilation.
Et c'est pour ça que c'est une œuvre qui interpelle, qui intéresse, qui intrigue, qui étonne. Parce que à cette période-là, c'est vrai que les gens, les habitants, sont plutôt intéressés par une course vers la France, s'approprier les valeurs françaises. Bon, il faut un peu les comprendre parce que c'est très beau quand on vous parle d'égalité, de liberté, de fraternité, etc. Mais il y a quelques voix qui disent, bon, c'est bien, ces valeurs-là sont importantes. Mais nous, en Guyane, nous avons créé aussi quelque chose. Nous avons notre propre culture. Nous avons notre langue. Alors, faites attention, panga, pablier. Et, écoutez, je pense que cette voie contre-courant ne peut qu'éveiller la conscience des gens. C'est pour ça que cet auteur mérite sa place aux côtés de Léon Gontran-Damas, aux côtés d'Elie Stevenson, aux côtés de tous ceux qui ont dit très tôt, eh bien, voilà ce que nous sommes en Guyane, Voilà ce que nous pouvons faire de notre pays. L'auteur a une vision très claire. C'est vraiment un précurseur. Il a une vision très claire des richesses du pays et des possibilités de mise en valeur du pays. Et ça, c'est vraiment inestimable. Voilà.
Alors, comment il a eu ce pseudo, ce surnom de Mitterrand ? Qui l'appelait ainsi ? C'était dans sa famille ou généralement on le connaissait sur ce surnom-là, en tout cas sur ce pseudo ?
Alors, le pseudo, c'est Alfred Paripou. Et le véritable nom, c'est Athénodore Mitterrand. Je n'en dis pas plus.
Très bien, L'audace des matins, un roman écrit par Ernestine Bocage et qui revisite à sa façon cette œuvre majeure de notre patrimoine immatériel Atipa. Et surtout, moi, ce que j'ai retenu, c'est que vous dites que les premières revendications et créoles se sont passées en Guyane, plutôt les premières revendications créoles, se sont passées en Guyane à la fin du 19e siècle, par un récit conséquent rédigé entièrement en langue créole en pleine naissance de la Troisième République. Et là, c'est un scoop pour nous, puisqu'on était loin d'imaginer que ce bouillonnement pouvait se passer chez nous.
Oui, c'est une chance. C'est un scoop, c'est une chance. Il faut que les Guyanais et d'autres personnes autour donc de la Guyane prennent conscience de ce scoop et de cette chance. Dernièrement, on a eu donc une conférence de lancement. Et plusieurs personnes nous disaient que ils ont eu des difficultés à lire Atipa, mais maintenant qu'avec l'essai et l'audace des matins, et bien ils se sentent un peu plus en confiance pour pouvoir aborder l'œuvre. Donc j'espère vraiment, et je le sens quelque part, parce que c'était une demande aussi, cet essai. Puisque les gens savaient que je travaillais depuis très longtemps sur Atipa, je réfléchissais sur ce roman qui vraiment m'interpellait. Et donc... L'essai était quelque peu attendu. Donc les gens, effectivement, je pense, vont s'en emparer. L'auteur a voulu, par le titre de son ouvrage, par le pseudonyme qu'il a choisi, par l'inscription qu'il a portée sur son livre, il a voulu bien circonscrire un territoire. Il a voulu poser la problématique de manière très claire. Mon essai porte cette problématique. Mon essai est un peu le porteur de toute cette richesse qu'Atipa donc veut nous transmettre. Et donc, c'est un cadeau. Pour moi, c'est vraiment un cadeau qu'il nous fait. À travers les 350 pages qui sont écrites dans l'essai, je pense vraiment que... Là, je m'adresse au lecteur. Je pense vraiment qu'ils vont comprendre la valeur et la confiance en fait que l'auteur a voulu nous faire en laissant cet ouvrage de 227 pages uniquement en créole et en pensant que nous les Guyanais qu'on allait effectivement pouvoir le comprendre. Et on y est presque puisque plus de 100 ans après. Le livre est en circulation. Les jeunes commencent à le lire. Dans les écoles, il y a des enseignants qui le travaillent, qui mettent en scène le roman Atipa, qui en font des sujets de débat argumentatif. Donc la réception apparemment est là. Donc il faut que ça se poursuive.
L'audace des matins est loin d'être une paraphrase du roman Atipa. Au contraire, vous apportez des éléments qui aident et qui ont vocation d'éclairer la lecture du livre Atipa. En ce sens, votre livre est totalement novateur et a toute sa place.
Oui, Je l'ai conçu ainsi. Je me suis mise un peu à la place des lecteurs en me demandant qu'est-ce qui pourrait effectivement faciliter la lecture du roman. J'ai eu beaucoup de chance parce que moi je l'ai lu sans problème. J'ai lu vraiment rapidement. Donc en me mettant à la place de l'auteur, des lecteurs, je me suis dit qu'il fallait qu'il se plonge déjà dans la Guyane du 19e siècle. Et c'est pour ça que dans l'essai, vous avez beaucoup de cartes postales. Et là aussi, j'ai eu la chance d'avoir des cartes postales qui dataient précisément de 1884, de 1883. Donc, on est au plus proche de la réalité d'Alfred Paripou et de ses personnages, parce qu'il y a bien 12 personnages que rencontre Atipa, donc soit 13 personnes dans le roman. J'ai voulu aussi enrichir mon essai d'arbres généalogiques pour que les gens comprennent bien les familles qui entouraient donc l'auteur. Un arbre sur sa propre famille, un arbre sur généalogique sur ses amis. Par exemple, dans l'ouvrage, je cite un témoignage clé, celui de Léon Bassière. Donc, les gens auront plaisir à lire ce témoignage parce que je le fournis en intégralité dans l'annexe de l'essai Atipa l'audace des matins. Et pour une première fois, il y aura des illustrations. Donc, on a eu quelques illustrations dans la bande dessinée qui a été produite. Mais là, j'ai bénéficié de la plume de Marvin Nyamb qui nous a illustré chacun des personnages. Donc, les gens trouveront ces illustrations dans l'essai. Et j'ai aussi rajouté, donc, en plus, alors les arbres généalogiques, les cartes postales, les illustrations, eh bien j'ai rajouté quelques documents d'époque, comme les références concernant le dossier professionnel de l'auteur, les documents concernant tous les actes d'état civil qui m'ont servi à élaborer la biographie. Donc les gens auront mes propres analyses. Ah oui, ils vont trouver aussi des études comparatives, des analyses comparatives, parce que c'est un outil de choix pour les littéraires. Donc j'ai comparé, par exemple, des textes, des discours d'Athénodore Mitterrand au chapitre d'Atipa. Donc il y a une comparaison qui est faite, qui va enrichir aussi la lecture des gens, qui va leur permettre d'avoir encore plus de compréhension. Mais tout ça, ce sont effectivement des avancées et ce sont des éléments que j'ai voulu mettre dans mon essai pour faciliter l'appropriation de l'œuvre.
Alors nous dirigeons vers la fin de cet entretien fort intéressant. Alors moi j'aimerais, avant de nous quitter, parler de l'analyse que vous avez faite sur le système d'écriture utilisé par Alfred Paripou. Je crois que c'est la première fois que j'en entends parler. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez procédé pour décortiquer, décrypter par son écriture?
Alors, ça part toujours. En fait, quand un chercheur se lance dans des investigations, quand un chercheur se lance dans une recherche, il suit toujours quelque part une intuition, ou bien il suit quelques principes de recherche. Je sais qu'en linguistique, par exemple, que quelqu'un ne peut pas écrire un livre de cette ampleur, il s'agit quand même de 227 pages, hein, en créole, sans qu'il ait une base d'écriture. Donc, Alfred Paripou, l'auteur, ne nous a pas livré cette base d'écriture, il ne nous a livré que le roman, on n'a que le produit fini. Or, à cette époque, il y a un autre auteur qui a présenté un système d'écriture. Et notre auteur, Alfred Paripou, ne suit pas ce système d'écriture. Il écrit d'une autre manière. Donc, je vais relever pratiquement tous les mots, toutes les graphies qu'il utilise pour voir comment, quel est le système d'écriture qu'il a pu mettre en place. Parce qu'il en avait forcément un. Et à partir de ce relevé, eh bien, je vais construire un tableau orthographique. Vous avez dit tout à l'heure que je suis membre actif de Rakaba. C'est vrai. Et Rakaba, très tôt, a présenté un tableau d'écriture. Donc, je vais mettre en comparaison le tableau d'écriture de Rakaba, le tableau phonétique international, et ça va me permettre de construire le tableau d'écriture d'Alfred Parepo. Et ça, c'est une première. C'est une première pour que l'on sache comment il s'y est pris et quelles sont les règles d'écriture qu'il a mises en place pour écrire son roman. Je dois dire tout de suite que l'auteur a été rigoureux. C'était vraiment quelqu'un de lettré, quelqu'un de... Comment vous expliquer ça? Parce que tout de même, il n'y a pas d'erreur. Par rapport à son système d'écriture, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de faute. Donc, on a affaire à un esprit rigoureux, à un esprit éclairé, et les gens auront plaisir à découvrir, ce tableau qui est dans l'essai, et puis les principes que je vais énoncer. Donc, ça a été vraiment une joie pour moi de comprendre comment il s'y est pris, quel a été en fait ses choix, et puis sur quoi il s'est basé pour se dire, je vais écrire de telle manière parce que cette manière-là va faciliter la lecture. Je vais écrire de telle autre manière parce qu'il faut tout de même montrer que le créole est autonome et que le créole, a sa propre substance. On sait que, en règle générale, au niveau des écritures, quand on écrit le créole, on doit se déterminer entre une écriture étymologique, donc qui va beaucoup se rapprocher de l'écriture française, ou bien une écriture phonologique qui va moins se rapprocher et qui va davantage permettre aux gens de se baser sur la prononciation des mots en créole. Eh bien, les gens vont découvrir au chapitre 4 précisément comment Parepo s'est organisé.
Atipa, une œuvre patrimoniale reconnue par l'UNESCO, qui a été aussi récompensée, deuxième édition en 1980 aux éditions caribéennes. L'audace des matins, c'est le roman que vous publiez, Madame Ernestine Bocage. Je rappelle que vous êtes essayiste, membre actif de l'association Rakaba. Un roman pour relier les différentes générations afin d'assurer la transmission d'une mémoire collective. Merci beaucoup, madame, d'avoir accordé cet entretien à Radio Maïwori Campus. Peut-être un dernier mot?
Oui, alors, je suis essayiste, donc j'ai écrit un essai. Et donc, un essai sur un roman. Mais moi, je n'ai pas écrit de roman. C'est bien un essai que j'ai écrit. Un dernier mot, pour dire que j'ai eu plaisir à faire ce travail-là. Donc, j'ai eu plaisir à le présenter à la conférence de lancement. Et j'aurai plaisir à rencontrer donc les lecteurs. Donc, il est prévu avec Ibis Rouge plusieurs rendez-vous. Et j'aurai vraiment plaisir à échanger avec tous ceux qui vont lire, qui voudront découvrir mon essai « L'audace des matins ». Je vous remercie.
Merci à vous.